Les jardinières.
Ce n'est pas encore tout à fait le moment de déballer les cadeaux, mais ce matin, on vous offre, comme chaque samedi d'ailleurs, la possibilité de poser vos questions jardinage à un professionnel. Et dans l'équipe des jardinières, il y a Raphaël. Bonjour.
Bonjour Mylène, bonjour à tous. Et même si ce n'est pas un temps à mettre un jardinier dehors, lui a bravé le froid et grimpé les marches du studio pour nous rejoindre. C'est Jean-Pierre Ribaud, fondateur de Ribaud Paysages à Quieuvre. Bonjour et bienvenue.
Bonjour tout le monde.
Vous avez une heure pour poser vos questions jardinières aussi, ça marche bien, à Jean-Pierre Ribaud, et vous avez trois possibilités pour le faire. Vous pouvez le faire par téléphone 0901 70 20 20, ça coûte 36 centimes la minute. Sinon, si vous êtes timide, vous pouvez le faire par SMS. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question, et vous envoyez ce message au 939 ou via nos formulaires disponibles sur rjb.ch, rtn.ch ou rfj.ch sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Très bon réveil et bienvenue chez les jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
En hiver, le jardinier souffre. Enfin, les mains du jardinier sont sèches, tout comme la peau de son visage, il a froid. Mais heureusement, il peut utiliser Bref, il peut porter des gants et des bonnets. Jean-Pierre, est-ce que les plantes, elles aussi, souffrent du froid? Faut-il toutes les protéger?
Ah non, à l'évidence pas. Il y a certaines plantes qui passent très bien sous nos latitudes, malgré les froids qu'on peut supporter en janvier-février, les moins 20, les moins 30. Ce n'est pas des situations catastrophiques selon les végétaux. Après, à l'évidence, il y a des plantes qui ne sont pas indigènes à chez nous, et puis celles-là ne passent pas sous nos latitudes. Alors là, il y a une certaine mesure à mettre en place, soit de l'emballage, dans le milieu nature, ou alors des plantes qui sont en pot, qu'on va hiberner dans des jardins d'hiver, dans des serres, dans des espaces où le froid ne sera pas très attaquant, où la bise ne sera pas très violente, parce qu'il y a aussi des plantes qui supportent le froid, mais qui ne supportent pas les forts coups de bise qu'on peut supporter selon les endroits chez nous. Alors, par exemple, le palmier, il va supporter des moins 5, des moins 8, mais par contre, un moins 5, moins 8 avec un fort coup de bise sur une journée, là, il ne va pas supporter parce que le froid, il sera trop pénétrant.
On lui met un petit caouet?
Alors, ça ne va pas suffire. Il faudra vraiment l'hiberner avec une torche de paille, de natte, de coco, de jute. Il faut vraiment éviter que les forts courants puissent pénétrer ce froid de cette plante. Donc, on les connaît un peu après les plantes qu'il faut hiberner. Ou alors, il y a aussi des plantes dans les potagers où les rhizomes ne supportent pas notre latitude et puis peuvent geler dans le sol, comme le dahlia. C'est une plante que, par exemple, on va sortir à l'automne. Ça va permettre de défaire un peu le rhizome pour enlever les vieilles racines qui sont sur ce pied, et puis on les hiberne en cave quand on peut, ou au garage, mais en tout cas dans un endroit où c'est pas gélif, pour replanter cette plante au printemps, et puis voilà, le cycle est donné.
Merci beaucoup Jean-Pierre. En tout cas, quand vous nous parlez de palmiers, moi, et que je regarde à la fenêtre, je me dis que vivement l'été. Vous répondez aux questions de nos jardiniers amateurs et passionnés, et ça se passe jusqu'à 8h. Alors vous, auditeurs, vous avez jusqu'à 8h pour nous appeler 0901 70 20 20, 36 centimes la minute, et vous parlez en direct à Jean-Pierre pour poser toutes vos questions. Et pour les plus intimes et pour les plus timides surtout, on attend vos SMS. Vous tapez jardin puis votre message et vous nous l'envoyez au 939 ou le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Les jardinières.
Les jardinières en votre compagnie jusqu'à 8h, et ce matin c'est Jean-Pierre Ribaud de Quieuvre qui répond à vos questions. On va se lancer tout de suite dans ces questions jardinage avec une question de Jérémy qui aimerait se lancer dans le jardinage, et il a raison. Et il nous dit: bonjour, je lis souvent le terme repiquage, mais concrètement en quoi cela consiste? Merci.
Oui, alors Jérémy, bonjour. Le repiquage, c'est en fait l'action de sortir des plantules, des petites plantes qui font 2-3 cm de hauteur, donc au démarrage de leur développement. Et puis on les plante en isolé, soit dans un pot, soit dans un carré au potager, soit... En tout cas, on les plante en isolé. Le fait de faire un trou, ça peut se faire simplement avec un crayon, ça peut être avec le doigt, ça peut être dans un substrat qui est tourbeux, terreux, qui n'est pas trop lourd. C'est une plantule qu'on plante en isolé pour la valoriser, qu'elle arrive à s'épanouir avec un maximum de luminosité pour avoir une plante de qualité. Alors on peut repiquer des salades, on peut repiquer des tomates, on peut repiquer des tuyas, enfin tout peut se repiquer. C'est vraiment le stade du démarrage de la végétation, les petites plantes plantules quand il faut les isoler en individuel pour un épanouissement. Voilà.
Moi, j'ai vu qu'on dit qu'il faut repiquer les carottes. On est obligé de le faire? Non,
non, ça. Non. Alors, non, en fait, la carotte, c'est quelque chose qui se sème sur une ligne.
Oui.
Si vous avez la main un peu lourde et puis que vous avez oublié de prendre un peu de sucre ou de sable pour mélanger dans votre semence pour avoir un semis qui est un petit peu éclairci et puis que vous avez mis... et puis qu'il y en a tellement sur la ligne que vous vous rendez compte que ça fait un tas de fougères, là vous êtes obligé de les dédoubler, mais on les repique pas. Ça veut dire le dédoublage, on enlève une partie de ces jeunes carottes sur la ligne pour que les autres restantes arrivent à se développer, parce que si elles sont trop denses, eh bien, vous n'aurez jamais une super carotte.
Et celles qu'on enlève, on peut les replanter à côté?
Non,
ou c'est cuit?
Non, je ne crois pas. Non, carottes sont cuites. Oui, vous avez meilleur, oui. Vous pouvez vous amuser, mais enfin, je ne suis pas sûr.
Merci Jean-Pierre.
On rappelle peut-être les numéros 0-901-70-20-20 pour nous contacter. Et puis, si vous nous appelez, comme c'était le cas il y a quelques secondes en arrière, ce serait sympa de nous parler au téléphone, histoire qu'on puisse vous entendre. Et puis, vous pouvez autrement passer par SMS, vous tapez Jardin, votre message, et vous nous l'envoyez au 939. Et les formulaires disponibles sur nos sites internet sous l'onglet émission, questions aux jardinières. Et cette question, justement, on va repartir avec celle-ci. Je vais recevoir pour Noël une petite statue qui sera installée dans mon jardin, elle est en pierre, a-t-elle besoin d'un entretien particulier?
Alors, bonne question, ça dépend de la matière dont est composée cette statue. Si c'est au pire de la terre cuite, alors à l'évidence, elle ne va même pas passer l'hiver, hein, parce que la terre cuite, c'est un élément qui est absorbant au niveau de l'humidité, et puis un fort coup de froid, de gel, donc ça va faire éclater la terre cuite, et puis ça va fendre en deux, en trois, en quatre, la statuette, au même titre que si vous avez des plantes qui sont dans des pots en terre cuite pour l'hiver, alors à l'évidence, vous ne pouvez pas les laisser à l'extérieur, parce que cette terre cuite, et bien au printemps, c'est des pots qui seront cassés. Après, au niveau de la statuette, alors après, si c'est du métal, aucun problème. Si c'est de la pierre, on peut aussi mettre un hydrofuge par-dessus qui évite un peu l'humidité d'ancrer ces mousses, ces lichens par-dessus. Ça dépend aussi de la couleur de cette statuette. Si c'est un brun foncé, il n'y a pas besoin de prendre trop de mesures. Si c'est une pierre plutôt claire, là, ça vaut la peine de la protéger un peu, justement, avec un produit que vous arrivez à trouver dans les grandes surfaces, juste idem celui qu'on met sur le dallage pour éviter ces lichens qui s'ancrent dedans. Et puis sinon, non, pas de particularité quelconque sur une statuette pour le potager. Peut-être si c'est une très haute et puis qui risque de chuter et se casser, ben, prendre une mesure par rapport au socle de pose, un socle de fondation ou l'étayer, l'attacher, je ne sais pas. Ça dépend un peu de peut-être là une mesure particulière là, mais sinon pour le reste, non, aucun souci.
On va enchaîner avec une question que nous venons de recevoir par SMS. On reste un peu dans la pierre. C'est une personne qui nous dit « Bonjour, une mousse verte couvre les bords de mon trottoir. Comment s'en débarrasser sans produits chimiques d'avance ? Merci. » Et c'est une question de Dalila.
Eh bien, bonjour Dalila. En fait, la mousse que vous avez sur ce bord de trottoir, c'est certainement sur un macadam. Certainement, ce macadam, il est à l'envers, il est dans un espace où la luminosité n'est pas forcément là, en tout cas pas exposée plein sud. Il peut y avoir une haie, il peut y avoir un mur, et puis, enfin voilà, il y a un élément qui fait que ça amplifie ce phénomène de mousse sur ce macadam. Pour l'éradiquer... le karcher, la machine à pression, c'est pas le top, parce qu'on sait que les macadams, c'est quelque chose de poreux, puis plus vous passerez la machine à pression pour enlever ces mousses, plus vous creuserez les trous, puis plus vous creuserez les trous, plus vous aurez de la mousse qui va arriver facilement.
Un cercle vicieux.
Exact. Alors le mieux, c'est peut-être, durant l'hiver, on arrive à les brûler avec les sels hivernants pour le dégel. Après, c'est l'espace qui fait que malheureusement, il y a un peu de mousse. Vous pouvez la racler si vraiment il y a une grande épaisseur. Après, si c'est juste quelques petite arrivée de mousse, faut peut-être vivre de temps en temps un peu avec, parce que c'est pas un élément qui est dégradant, en tout cas pas, et puis c'est pas quelque chose qui est trop vilain non plus, je crois pas.
Bon, la mousse, c'est pas grave, c'est par exemple si un arbre, un petit arbre, hein, se met à pousser, oui. Là il faut penser à l'enlever.
Alors oui, à l'évidence, dans les macadam, si vous avez des arrivées de bouleau, de saule, même de liseron ou de dos de lion, déjà, le problème, c'est qu'il aurait été créé avant. Donc, une fois que le macadam est posé pour qu'un dodelier ou un liseron ou un arbuste démarre dedans, il faut qu'il soit déjà là avant. Donc, c'est souvent dans des nouveaux macadam qu'on trouve ces problèmes. Dans les vieux macadam, vous n'aurez pas ça. Ce que vous pourrez avoir dans un vieux macadam, c'est une fissure qui sera intervenue dans le temps. Et puis là, une plante qui va se développer et puis il pourrait essayer de survivre. Mais avec les étés rudes qu'on a, en général, c'est des plantes qui ne passent pas l'hiver... qui passe pas l'été dans ces par les canicules dans ces failles, parce qu'en plus le macadam il vient très chaud, il absorbe complètement l'humidité, puis la plante qui essaie de survivre là, elle périt durant l'été.
Merci Jean-Pierre pour toutes ces précisions pour enlever la mousse et toutes les autres choses sur les trottoirs, les macadam. Raphaël, on va peut-être rappeler
les numéros.
Les numéros, oui.
Exactement, 0 900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Je croise les doigts, je vais essayer de vérifier ça pendant la petite pause qui va arriver, mais je crois que j'ai un petit problème de téléphone puisque je n'entends pas nos auditeurs qui essayent de nous joindre ce matin. Donc je vais essayer de rétablir tout ça pendant la petite pause qui va arriver. Sinon, vous avez le SMS, ça fonctionne, on est certain. Vous tapez jardin un espace, votre message et vous l'envoyez au 939. Sinon, il y a le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet émission, questions aux jardinières.
Les jardinières.
Deuxième partie de notre heure de jardinage. Les jardinières sont avec nous jusqu'à vers 8h. Ce matin, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, fondateur de Ribaud Paysages à Queuves, qui répond avec plaisir et savoir à vos questions.
Exactement, vos questions que vous nous posez par SMS, vous tapez jardin un espace, puis votre message au 939 et également par nos sites internet disponibles sous l'onglet émission questions jardinières. On va éviter le téléphone ce matin puisqu'on a des petits soucis techniques de téléphone. Voilà, ça doit être le vent, donc privilégié. Et puis, on a quand même réussi, j'ai quand même réussi à atteindre, parce qu'il y a Annette qui essaie de nous contacter depuis très très tôt ce matin, et donc du coup je l'ai pris au téléphone, mais hors antenne. Elle a des fleurs en pot sur sa terrasse qu'elle a mise durant cet été, elle les a enlevées cet automne avec plein de vers. Elle aimerait savoir, mon cher Jean-Pierre, comment les éradiquer, tout simplement.
Eh bien, bonjour Annette. En fait, ce qui s'est passé dans vos pots, c'est que le hanneton est venu et puis s'y est développé. L'avantage pour le hanneton, c'est de trouver dans vos pots un substrat qui est plutôt aéré et puis qui peut être aussi assez tempéré durant l'été, parce que le pot, c'est un élément qui peut chauffer à l'intérieur, et puis évidemment tout ce qui est d'hanneton et autres se développe à merveille dans ces éléments plutôt tempérés. Que faire maintenant? Le mieux, c'est de, je pense, simplement mettre au compost ce substrat, puis vider les pots, parce que de toute façon, pour refaire une nouvelle plantation printanière là-dedans, il faudrait rajouter de nouveaux terreaux, il faudrait de toute façon faire de l'adjonction d'engrais, parce que le terreau que vous avez mis en printemps 19, automatiquement, tous les éléments nutritifs ont été lessivés et mangés par les végétaux cet été, et puis au printemps prochain, en 2020, eh bien, ce substrat il sera plutôt très fatigué. Donc le mieux, c'est de mettre ce matériel au compost, laver vos caisses, et puis redémarrer avec un nouveau substrat. Évitez ce phénomène, vous n'allez pas y arriver, parce qu'on l'a vu, l'hanneton, c'est un élément qui est cyclique, hein, c'est des attaques qu'on rencontre, il y a des fois, c'est même que par commune, hein, et puis eh bien, dans les gazons, on essaie de traiter, mais ce n'est pas forcément très efficace. Il faut attendre que le gros du dossier passe, et puis après refaire des semis, des sursemis et autres sur les pelouses. Et puis pour ce qui est des potagers, des composts et puis des plantes en pot, si vous avez une trop forte attaque, et bien malheureusement c'est souvent une lutte mécanique, ça veut dire à la main, hein, vous grattez, vous sortez ces vers de hanneton, ils sont des fois très très grands, c'est assez impressionnant à voir, et puis et bien les détruire d'une quelconque manière.
Voilà. Aux poules.
Oui, c'est la bonne manière.
Nous voilà, on espère d'avoir répondu à Annette. Merci beaucoup Jean-Pierre.
On va enchaîner avec une question de Josiane qui nous a écrit, elle vient d'Aruz. Bonjour, j'ai un mimosa dans ma véranda qui n'est pas chauffé, comment l'arroser? Merci, bonne journée.
Eh bien bonjour, en fait pour ce mimosa, il faut quand même le garder un peu à l'humidité, mais comme toutes les autres plantes que vous passerez en hibernation, dans un jardin, dans une serre, dans une couche, il faut quand même de l'humidité, hormis les cactus bien sûr. Ce mimosa, comment l'arroser? Il faut que le substrat garde de l'humidité, je dirais une cadence d'une fois par semaine en tout cas, mais après il y a encore d'autres incidents qui peuvent intervenir, ça veut dire la température du volume dans lequel il se trouve, la luminosité, la grandeur de la plante, la sorte de pot. Si vous avez un pot qui est en terre cuite, automatiquement il faudra arroser beaucoup plus que si vous avez une plante dans un pot plastique, parce que la terre cuite c'est quelque chose de respirant, c'est quelque chose qui va absorber cette humidité, c'est quelque chose qui va ventiler cette humidité, donc il faut juste que quand vous mettiez votre main par-dessus le terreau ou un doigt dans le terreau, eh bien que vous sentiez que vous arriviez à l'entrée, et puis que ce ne soit pas un terreau qui soit complètement amorphe, trop sec. Il doit être humide, voilà.
Merci Jean-Pierre. On va enchaîner, Raphaël, avec une question
par SMS.
Oui.
Exactement. Comment récupérer mon orchidée qui a pris le froid bien glacé et qui a fait brûler les feuilles, et celles-ci sont toutes tombées?
Ouh là là, et ben la meilleure manière pour récupérer cette orchidée, c'est d'aller dans la grande surface du coin là
et d'en acheter une nouvelle,
de remplacer la plante.
D'en demander une pour Noël,
il y a
voilà.
Une solution, peut-être laisser sécher dans un coin pour faire un peu de déco, peut-être, mais sinon il y a aucun non, toute solution.
Plus d'espoir, c'est cuit pour l'orchidée.
L'orchidée n'est pas une plante qui supporte nos latitudes, surtout pas dégelée.
On brûlera une bougie pour cette orchidée ce soir.
Douce pensée pour cette orchidée. Les jardinières en votre compagnie encore pendant un bon gros quart d'heure. Jean-Pierre, je me mets dedans. On va enchaîner avec une question qui parle d'un olivier. J'ai reçu un olivier d'1m50 environ qui est dans un pot. Comment le faire passer l'hiver? Merci, bonne journée. C'est Astrid qui nous pose cette question.
Bonjour Astrid. En fait, comment faire passer l'hiver à cet olivier? Il y a plusieurs manières. Je ne sais pas sur quelle région vous vous trouvez, si vous êtes sur le Jura ou sur Neuchâtel. Je pense que sur les bords du lac de Neuchâtel, l'olivier, mis en place dans un terrain où il n'y a pas trop de courant, avec une protection hivernante, ça veut dire un emballage, avec un flim, des nacres de coco, des jutes, des éléments comme ça, il devrait arriver à passer l'hiver. Parce que l'olivier, c'est une plante qui arrive à supporter jusqu'à des moins 8, moins 10, sans souci. C'est une de ces plantes qui ne va vraiment pas supporter les grands coups de bise qu'on peut vivre chez nous par moins 10, moins 15, parce que là on amplifie des températures à moins 20, moins 25 selon. Donc sur Neuchâtel, ça c'est la manière de faire qui pourrait se faire. Par contre, si vous êtes sur le Jura, si vous êtes sur les Franches Montagnes, là c'est à l'évidence dans un pot que vous devrez maintenir cet olivier. Et puis pour l'hiver, eh bien le mettre dans un jardin d'hiver, un garage, en tout cas un volume qui va être coupé qui va couper ses grands coups de bise, ses grands coups de froid, et puis maintenir à une température de moins 5 ou plus 15, quelque chose comme ça. Il ne faudrait pas le mettre dans un volume trop tempéré, parce que sinon, ce qui va arriver, il va complètement perdre toutes ses feuilles durant cet hiver par ce choc thermique et puis trop de température avec de l'air trop sèche. Donc il faut lui trouver un endroit plutôt frais, quand même avec de la luminosité, parce que sinon s'il est trop ombragé, eh bien il va continuer de pousser, puis les pousses vont s'étioler, elles vont être jaunes, et puis il faudra le retailler sérieusement au printemps. C'est pas une plante qui est trop délicate, mais c'est une plante qui est quand même demandeuse, en tout cas de température pas trop froide, de l'humidité évidemment, et puis un peu de luminosité.
Voilà. Et si on l'emballe dans ces cocos, il faut laisser les feuilles à l'air
Oui, c'est, oui, le mieux c'est de tout emballer.
Comme et un
puis,
cadeau.
Exactement. Et puis, ce n'est pas la bonne idée d'emballer une plante qui est dans un pot. Parce que le drame du pot, c'est que, évidemment, en été, il fait très chaud. Donc, l'olivier supporte bien parce qu'il apprécie. Mais par contre, durant l'hiver, le pot, il transmet également cette température très froide aux racines. Ça gèle, la motte, elle gèle. Elle n'est pas du tout protégée par rapport à une plante qui se trouve dans un terrain naturel, planté. Et puis, elle est d'autant plus vulnérable.
Merci Jean-Pierre, on espère Astrid que nous avons répondu à votre question. On va enchaîner avec le sens artistique de Jean-Pierre.
Oui, une très belle question d'une auditrice qui aimerait fabriquer une couronne de Noël pour la fixer sur sa porte. Que lui conseillez-vous de mettre dessus? Du sapin, du houx? Quels sont votre sens artistique, Jean-Pierre? On veut tout savoir.
Elle est merveilleuse la question, mais il y a tellement de possibilités que c'est à l'infini, là on ne veut pas assez de temps. Non mais je ne sais pas, ça peut être de la paille, ça peut être du foin, ça peut être des feuilles. De n'importe quel arbre que vous trouverez dans les aménagements, hein, même paysagers. Vous pourriez prendre des feuilles de catalpa, c'est des feuilles qui font 30-40 cm de grandeur. Il y a un milliard de manières de faire une couronne. Maintenant, là-bas, ça peut être un grillage simplement avec des éléments piqués par-dedans. Ça peut être une couronne de lierre dans laquelle on pique autre chose. Ça peut être des branches de sapin. C'est à l'infini. Donc, je ne sais pas. Ça dépend plutôt de la porte, de la couleur du bâti, de l'emplacement de l'élément pour savoir comment adapter quoi, parce que une couronne avec n'importe quoi, vous faites une superbe couronne, je pense.
Si elle reste dehors, on peut mettre ce qu'on veut, parce que ça va pas changer de couleur ou moisir. Par contre, à l'intérieur, c'est plus difficile.
Alors oui, selon si c'est l'intérieur, selon s'il fait chaud, s'il fait trop chaud, mais de toute façon, la couronne, on ne veut pas la garder 6 mois, donc pour se donner un super bonheur à faire un super truc pour être super content, une super déco, puis une fois qu'elle passe, elle passe.
Et bien voilà l'activité du week-end proposée par Jean-Pierre Ribaud. Merci.
Petite session bricolage.
Voilà. On va parler du compost de Marinette qui se demande si elle peut continuer à verser ses épluchures de légumes sur son compost malgré la neige et la glace. Est-ce que les aliments se décomposent et faut-il le brasser ?
Alors bien sûr, bonjour Marinette, oui, bien sûr qu'il faut surtout brasser ce compost, surtout dans cette période hivernante, parce que le compost, c'est un élément que vous avez rempli durant tout l'été, je pense, et puis une bonne partie du substrat est déjà de qualité acceptable pour arriver à être réutilisable. Et puis évidemment que tout ce qui est déchets végétal, organique, peut être mis sur votre compost malgré le froid, la neige ou le gel, ça va continuer de se transformer. Simplement, effectivement, si vous voulez amplifier la rapidité de la transformation, c'est que par un mélange de l'élément que vous arriverez, parce que à chaque fois qu'on mélange un compost, on ramène de l'oxygène dans le compost, et puis c'est cet oxygène qui va permettre la multiplication des bactéries nécessaires à la transformation de ces éléments. Alors, une fois par mois, ce serait le bonheur de transformer ce compost en thym, le retourner, le brasser pour amplifier cette rapidité. Et puis, d'ici deux mois et demi, eh bien, réutiliser ce compost dans le potager pour arriver à faire un super potager durant l'été.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On rappelle peut-être à nos auditeurs comment vous posez vos questions à notre spécialiste ce matin. Par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et vous l'envoyez au 939 ou encore vous pouvez utiliser le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission, questions aux jardinières. Et justement, on reste dans le compost, mon cher Jean-Pierre, avec une question de Paula. Elle prépare du limoncello et des confitures d'orange pour Noël. Peut-elle mettre au compost les peaux de citron et des oranges? Oui, non. Et quels sont peut-être les problèmes rencontrés?
Alors, de nouveau, bien sûr, elle peut mettre tout ce qui est de matériel organique sur ce compost. Les oranges, les citrons, c'est des éléments qui veulent se transformer un peu plus lentement, peut-être que si c'était simplement de la salade verte, mais ça va se transformer. Quelles sont les mesures? De nouveau, le mélanger, les introduire dans le substrat plutôt que de les laisser à l'air. Si vous avez une pelure d'orange qui se trouve sur le compost, eh bien, ça va peut-être aller deux mois et demi avant qu'elle ne commence de se transformer, parce qu'elle est à l'air, elle prend l'air, elle se dessèche, elle se remouille. Tandis que si vous la mettez en adjonction dans le compost, en mélangeant un peu votre compost, automatiquement les bactéries vont l'attaquer beaucoup plus facilement et puis la transformation sera plus rapide. Il n'y a aucune particularité par rapport à n'importe quoi que vous mettrez dans votre compost, parce que de toute façon c'est du matériel organique qui va se transformer, qui va être de toute façon de l'élément nutritif futur pour le printemps. Bon, pas de souci. Plutôt mettre sur le compost tout ce qui est d'organique que de la mettre dans la poubelle.
Jean-Pierre, on parle beaucoup de ces fruits oranges, citrons qui sont beaucoup traités, suivant d'où ils viennent. Est-ce que ça peut poser un problème pour le compost ?
Alors non, j'espère que non. Hein. Je suis pas sûr que non, mais je pense bien que non. On sait que les interventions chimiques sur les fruits doivent être avec des délais de carence plutôt longs, ça veut dire de 2 à 3 mois selon. Après, c'est quand même des éléments qui, en théorie, devraient se dégrader avec le temps. Donc je ne pense pas que vous avez des phénomènes par rapport à ça. Non, je ne pense pas.
Merci Jean-Pierre. On va poser encore la dernière question, peut-être, vu qu'il est déjà 7h52, sur un germoir. Une personne qui a reçu un germoir et elle aimerait savoir si elle peut y faire germer des petites graines toute l'année. Et avez-vous des conseils pour une bonne utilisation? Peut-être expliquer
ce qu'est un germoir,
à Raphaël
déjà.
Ce qu'est un germoir.
Volontiers.
Ok, eh ben, c'est tout simple. Un germoir, c'est une caissette, une barquette dans laquelle vous mettez votre terreau, vous faites votre semis de ce que vous souhaitez, et puis par-dessus, vous avez une vitre ou un plastique qui fait office de petite serre, qui va faire plutôt un système de forçage, on appelle ça dans le métier. C'est un endroit de forçage pour faciliter la germination puis le développement des plantes. Alors, après, oui, bien sûr, vous pouvez utiliser ça un peu toute l'année, mais peut-être que là, maintenant, mois de décembre, le mieux, c'est de faire un semis de cresson. Et puis, quand votre cresson, il sera bon pour la salade, eh bien, vous le coupez, puis vous le servez en plat, évidemment. Parce que vous ne voulez pas mettre en place, maintenant, des tagettes ou des tomates ou des laitues, parce qu'on sait très bien qu'on est début mi-décembre, et puis que ces éléments-là, ces plantes-là, quand elles seront prêtes au repiquage, la première question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure, eh bien, on pourra les repiquer, mais on ne pourra jamais les implanter dans le potager parce qu'on sera au mois de mars, et puis il y aura encore des forts froids, puis plein de dégâts dessus. Donc, à cette période, on peut faire des semis courts pour des des consommations rapides. Et puis après, alors au printemps, bien sûr, tout ce que vous voulez, hein, des légumes, des fleurs, ce qui vous intéresse au niveau des semis. Simplement, ces caissettes de forçage, eh bien, après, on passe obligatoirement par le repiquage pour justement diviser ces plantes pour avoir des qualités derrière.
Merci beaucoup Jean-Pierre. L'heure file, nous allons bientôt devoir nous séparer de vous. Mais avant de vous relâcher, Jean-Pierre, dans la nature, place à notre traditionnelle question de fin d'émission. Nous sommes mi-décembre, que faire dans son potager ?
Dans le potager, eh bien...
Mis à part s'attacher à un arbre pour ne pas s'envoler.
Non, oui, mais ça c'est seulement ce matin. non, mais alors je ne sais pas, ça dépend de l'état du potager actuel. Si rien n'a été fait, alors à l'évidence, le nettoyage des mauvaises herbes qui sont encore latentes par-dessus, enlever les déchets des anciens légumes que vous aviez implantés durant l'été. Vous pouvez faire des bêchages grossiers, parce que à cette période, eh bien, en faisant un bêchage grossier, vous arrivez à reposer la terre. Le fait qu'il soit grossier au printemps avec le gel dégel, vous voulez avoir un substrat qui va s'affiner nettement plus facilement. Le potager, c'est plutôt calme en cette période de la saison. Si vous avez encore quelques choux que vous aviez à l'époque incorporés dans le terrain pour les jaunir, pour avoir une salade tendre, eh bien, c'est encore le moment de les récolter. Oui, sinon,
il y a les endives aussi qui sont en train de pousser gentiment dans les caves.
Alors oui, bien sûr, il faudra aussi se régaler avec, quoi.
Mais moi, je me fais une question en tant que débutant, hein, ça fait que quelques mois que je suis accompagné Mylène sur cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose de très important à faire encore à mi-décembre dans un jardin pour justement préparer la belle saison qui arrive ?
Non, peut-être que non. À moins que vous ayez une forte couverture de mauvaises herbes ou de trucs comme ça, ou de dépôts de feuilles ou d'amas de légumes, peut-être là, la mesure, c'est de les enlever et de les mettre sur le compost, parce que c'est souvent des endroits où les souris raffolent de se mettre en place. En général, c'est des terres qui sont plutôt faciles à travailler pour la souris, et puis cette couverture hivernante leur donne de la température, et puis il reste encore des déchets de légumes, et puis c'est le garde-manger pour l'hiver.
Et c'est la fête.
Et oui, mais c'est la galère après au printemps pour s'en défaire, parce qu'une fois qu'elles sont implantées, c'est galère. Alors, peut-être la mesure de prévention qu'on pourrait dire, c'est nettoyer ces surfaces au plus propre pour éviter ces ravageurs qui pourraient se mettre en place. Et puis après, pour le printemps, soit un coup de bêchage, un coup de motoculteur, et puis on repart.
Merci beaucoup Jean-Pierre pour avoir répondu à toutes les questions de nos auditeurs. On rappelle que vous êtes fondateur de Ribaud Paysages à Cueuvre. On va vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux conseils jardinage. Un bon week-end à vous. Merci Jean-Pierre.
Merveilleux, merci à vous. Puis bonne fête à tout le monde.
Bonne fête. La semaine prochaine pour la DER de l'année 2019. Nous serons en compagnie de Fabrice Rondet, paysagiste à Port-Rentruy. Et vous n'hésitez pas à nous envoyer vos questions durant la semaine, soit par SMS, soit via le formulaire.
J'aurai par le téléphone d'ici
oui,
là
d'accord.
Aussi.
Et puis on se réjouit de vous retrouver samedi prochain. Bon week-end,
bon week-end.
Dimanche, à bientôt.
7h, 8h, les jardinières.